Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Bon là, capotez pas, là. On va revenir à la base, on va revenir à un podcast le dimanche. C'est juste que là, moi, je veux bien, je vous aime, là, mais là, ça doit faire à peu près, si je sais compter, faudrait que je demande à Martine Veilleur-Bisson qui gère mon agenda, ça doit faire environ... Peut-être un mois et demi que j'ai pas eu deux jours collés, à part la fois que j'ai pogné la COVID, mais là, j'étais quasiment mourant. Okay? Fait que c'est ça. C'est pour ça que vous m'avez pas trop vu et entendu. Mais là, faites-vous-en pas. T'sais. Moi, je m'en vais pas nulle part. Je sais rien faire d'autre dans la vie. Des podcasts, là, comme dirait ma grand-mère, je peux vous en chier un par semaine. Il n'y a pas de problème. Pour l'année 2024. C'est juste que là, je me suis reposé, ça m'a fait du bien. J'ai travaillé d'autres dossiers. Accrochez-vous, on va redécoller. Il y a une loi non écrite qu'à partir du 9 de chaque début d'année, il faut que tu slackes la bonne année, parce que là, à un moment donné, on ne souhaitera pas bonne année à l'année longue. Fait que là, bonne année, succès dans vos études. On est le 8, vous avez déjà scrappé vos résolutions. Moi, je vais vous en donner une résolution. Essayez donc de toujours réussir la prochaine minute. Réussis toujours la prochaine minute. Sais-tu quoi? Tu vas réussir ta vie au bout. J'aimerais remercier Michel Boisvert qui m'a amené à la lutte la semaine passée. C'était bien le fun. J'aimerais remercier Jonathan Giria et Béatrice Dagrin qui nous ont reçus pour un party des fêtes. Je vais te dire une affaire, Joe et Béa commencent à avoir de l'expertise. Ils commencent à savoir recevoir. Puis, tu sais, tu reçois 45 adultes en boisson. D'un, ça se peut qu'ils cassent tes meubles. Ça se peut qu'ils renversent la bière à terre. Ça se peut que les voisins trouvent que Mélissa Fillion a un porte-voix dans le larynx parce qu'elle parle très fort. Mais... superbe organisation. Philippe Farley était là, fait que c'était difficile pour les autres gars d'avoir l'attention des filles. Les filles étaient vraiment toutes après la musculature de Philippe. Donc c'est ça, c'est un peu mon temps des fêtes. Là. J'ai reçu 2-3 livres en cadeau, mais un jour, là, je vais ouvrir ma porte de maison. Vous viendrez visiter mon 2,5. Martine Veilleur-Bisson l'a déjà visité, c'est impressionnant. J'ai des livres que j'accumule depuis mes 20 ans. Je n'ai jamais lu un. Et je dors à peu près, on a 50 livres. Je n'ai lu aucun. J'ai juste lu La peur d'avoir peur quand j'avais des problèmes de crise de panique. J'ai jamais lu un livre. Ils sont tous accumulés là. J'en ai. Un jour, j'ai essayé de lire un livre de Armand Savoie, qui est le plus grand poids moyen de l'histoire. Puis avec mon déficit d'attention, à page 38, j'étais plus capable. Fait que j'ai des livres à plus finir, je les ai jamais lus. C'est l'histoire de ma bibliothèque. J'ai des livres là, sur des boxeurs canadiens en anglais, en français. J'ai des livres sur l'histoire de la boxe, l'histoire de la lutte, des biographies de politiciens, des livres de croissance personnelle. J'ai tout ça. Je pourrais lire sans arrêt pendant 2 ans. Mais je lis pas. Ça fait partie de ma vie. Et comme dirait le rappeur Kissy LMNOP, si écrire c'est intellectuel, lire ça devrait être essentiel. Donc, la dernière fois, je rappe en onde. Fait que merci d'avoir été là. On a arrêté l'intro, là, parce que j'ai bien des affaires à vous raconter. Fait que je vais les raconter là. Fait que, intro finie. Ce podcast est rendu disponible grâce à ton bon ami Benjamin Théberge de fightnight.co, le défi du peuple, et ton bon ami Sébastien Forgue. On est déjà, je dis « on » parce que moi, je me sens impliqué dans le projet, là. On est déjà à chercher un adversaire pour Siamak Ramati. Siamak qui est... Siamak, je répète, qui est un colosse de 6 pieds 2, 220 livres. Donc, le 30 mars prochain, en même temps, c'est comme une soirée hommage pour moi, là, mais ben, je ne l'aurais pas dit, mais... Moi, je vais recevoir des hommages. Là. Au pire, ce sera du monde dans la foule. Parce qu'ils ont mis ma face sur le poster. Donc, je veux des hommages. Fightnight.co, Benjamin Théberge, Sébastien Forgue, le défi du peuple. Achète un billet. Benjamin est tombé sur la tête. Il donne le deuxième à moitié prix. Siamak va se battre deux fois dans la même journée. Show de kickboxing à 13h. Show de boxe à 19h. Les gars... Si vous voulez réussir vos projets, t'as une compagnie, t'as quelque chose, Benjamin Forgue, c'est un... Benjamin Théberge, Sébastien Forgue, mais ici, Benjamin Théberge, c'est un génie du marketing, graphisme, publicité, conception d'un plan. Moi, depuis que je connais Benjamin, mon succès a triplé. Donc... Et si tu es en forme, le plus grand gym de l'histoire de Trois-Rivières, si tu veux t'entraîner, ben tu vas au gym. Si tu es en forme, tu t'abonnes un an, tu mentionnes Laurence Écoute Parler, tu obtiens une barre de protéines ou un fruit complètement gratuitement. Tu demandes Sébastien Forgue pour honorer la promotion. Donc, c'est fini pour cette publicité. J'en ai à peu près 8 autres publicités aujourd'hui. C'est ton podcast préféré et c'est le 8 janvier, dans 5 jours. On se rappelle que Arthur Beterbiev n'a pas pu affronter Callum Smith parce qu'il était victime d'un traitement de canal qui s'est infecté jusque dans l'os de la mâchoire. Ça y a monté dans l'oreille, il a failli tout perdre. Rien de plus dangereux qu'un dentiste qui vous en veut, OK? Donc là, Beterbiev, ben là, ils ont réparé sa mâchoire, la dent s'est arrangée, j'imagine la mâchoire a cicatrisé, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi je connais ça un peu parce que souvent les gens au travail me disent « Poulain, t'arrêtes pas de te faire aller à la mâchoire », fait que je dois connaître ça. Et bon, ça nous amène au 13 janvier où on a notre grand gala. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller combat par combat. Parce que on est gâté. On parle d'une carte. Ça me fait un peu penser à quand on avait eu Adonis contre Vosdick avec Dicker en championnat du monde, puis Clavel. On parle d'un événement prestigieux à l'international qui pourrait dépasser les 10 000 billets vendus. Wilkins Mathieu avait un adversaire et là, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va se battre? Il se battra-tu pas? Wilkins était le premier de 9 combats. Je sais pas. C'est sûr que probablement qu'on va forcer parce que Wilkins est à la maison. Là, j'ai allé par ordre d'intérêt. Okay? C'est sûr qu'on n'a pas d'adversaire, fait que ça va être mon combat qui m'intéresse le moins. T'sais. Après ça, on a Moreno Fandero qui, lui, va affronter Victor Hugo, l'artiste peintre. Victor Hugo Flores, surnommé le Corbeau, les peintres, eux autres, ils ont des noms comme ça. Lui, on l'avait vu ici, il a fait la limite contre le prospect John Michael Bianco à Sydney, Nouvelle-Écosse. Donc, bonne idée. Le gars fait 6 rondes avec un gars de l'équipe nationale canadienne. Ben, on peut le ramener contre Fandero, puis il est 7-2. Fait que je dis bravo et je vais faire une prédiction. Fandero est très populaire en France. Je pense que les gens se sont entichés de sa personnalité. C'est une question de temps. Moi, je vais vous faire une prédiction. En voulez-vous des prédictions? En voilà une, deux, puis trois en même temps. Christian Mbidi, ça ne débloque pas Canelo. Camille, il se voit comme un promoteur international. Et il est en voie de le devenir, même qu'il l'est devenu. Donc, je crois que M. Billy et Fandero, accompagnés, exemple, de Léla Beaudoin, tu sais, qui aime voyager, il va y avoir un gala en France cette année, puis ils vont vendre 13 500 avec M. Billy. C'est ma prédiction. Après ça, en ordre de combat qui m'intéresse, on a Mehmet Ünal qui va affronter Dragan l'Épée. Dragan l'Épée, c'est un boxeur. Moi, je me rappelle de lui parce qu'il est né en Roumanie. Puis je me rappelle qu'il a déménagé en Italie. Vraiment, lui, il a vécu en Italie. T'sais. Puis, Dragan l'Épée, je me rappelle de lui parce que. Il avait affronté Giovanni De Caroli, qui à l'époque était champion WBC international, puis il avait bien paru contre Caroli. Puis là, je m'étais dit, hey, l'épée, c'est pas boxer, c'est juste De Caroli qui est tout croche, tu sais. Je m'étais dit ça, mais je sais pas pourquoi. J'étais fâché. Après ça, on l'a revu, puis c'est un peu le comparable que j'imagine on va aller chercher, c'est parce qu'il a fait deux rondes avec William Skull, qui boxe, le Cubain qui boxe pour les Allemands. Puis là, Skull, il y a eu un appel d'offre pour qu'il affronte Canelo. Fait que j'imagine qu'on veut jauger si Mehmet Ünal peut faire la même chose que William Skull. Parce que moi, je vais vous le dire, il y a eu des performances en demi-teinte, notre ami Ünal, et je crois qu'on n'est pas certain du côté d'Eye of the Tiger. Fait que là, boum, on y va d'incomparable. Puis on se dit, ça passera ou ça cassera avec lui. L'autre combat qui m'intéresse, en ordre de priorité, Christopher Guerrero, qui à son dernier combat a battu l'ancien aspirant mondial Lopez. Guerrero, il est surprenant. Okay? Là, à son dernier combat, il était... je pense qu'il était sur une île... Je pense qu'il était en Nouvelle-Zélande, mais je suis pas sûr parce que je me rappelle pas c'était quelle île. Mais bref, lui, il vient à Toronto. C'est ça l'histoire. Là. C'est que Sergio Herrera, il vient à Toronto au début de l'année 2023, puis il brise Adrien Bembridge, un prospect, au deuxième. Bang! C'est-à-dire, ça parlait pas de sa poule. Après ça, une décision très serrée contre André Lempe, un gars de 9-0. En Nouvelle-Zélande. Fait que c'est parfait. Moi, j'aime ça. Bravo, Eye of the Tiger. Vous allez chercher l'autre qui avait survécu à Bianco. Là, vous allez chercher le gars qui a battu le prospect Pembridge. C'est parfait, ça. Là, il va affronter Christopher Guerrero qui, lui, surprend et va se battre sur 8 rondes. Guerrero, il est pas pire, Guerrero. Il est pas pire. Après, dans mon ordre, j'ai... Iman Kataev qui va affronter Rodolfo Gomez Jr. Là, je vous entends. Hey, Rodolfo, ça me dit quelque chose. C'est pas le boxeur mexicain de la ville de Tamaulipas. Mais oui, vous avez raison. 14 victoires, 7 défaites. Mais c'est pas ça que vous voulez savoir. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Lui, il avait fait la limite avec Benjamin Whittaker. Là, c'est là qu'on l'avait connu la première fois. Là, il fait sa petite affaire. On n'entend plus parler. Comptez Diego Pacheco, qui est votre animal de guerre. Ah, oh, mais j'ai oublié une histoire avant. Après ça, c'est lui qui a affronté Ricardo Mayorga quand Mayorga a voulu faire une retraite. Mayorga, c'était le boxeur qui fumait dans le ring puis que ça fâchait tout le monde après ses combats. Mais il a battu Mayorga. Fait que ça l'a amené à affronter la super vedette Diego Pacheco, qui est au même niveau, disons, que M. Billy et Bazinian. Puis il a gagné un round contre Pacheco dans une défaite. Pas vraiment fait. Après ça, il a fait une décision, un draw majoritaire avec Alex Espino. Puis il a perdu une décision serrée contre Lester Martinez, OK? Puis il a fait une Rio Joss. Puis il a perdu par un point contre Bialy. Bon, là, on recommence. Il gagne juste un round sur 8 contre Pacheco. Il fait nul contre Espino, 9-0. Il perd une décision relativement serrée contre... un juge donnait 3 rondes contre Lester Martinez. Il fait nul contre Oscar Rio Jazz, puis il perd par un point contre El Bialy, celui qu'on a vu contre Jean-Pascal.
puis a battu Mallorca pour frapper l'imaginaire des gens. Bravo, quel beau choix d'adversaire. Et là, il va affronter Kataev sur 10 rondes. Et moi, j'applaudis. Là. Ça, je suis satisfait. Et là, il reste 4 combats à parler. Okay? On va en parler des 4. On a le temps. Vous autres, vous allez écouter ça bord en bord. Il y a 10 000 personnes qui s'en vont au centre Vidéotron. Peux-tu parler de la 4? Parler à l'autre, merci. Et là, Baudouin va affronter Isabelle Chavez-Espinoza. Combat revanche. Espinoza avait battu Léla Baudouin par décision unanime au Mexique. Okay? Puis là, tout le monde était fâché. Léla a crié au vol. Mais regarde, Léla, t'as la chance de te venger. Puis c'est une bonne boxeuse, son adversaire. C'est parce que sa fiche est tout croche, okay? Mais elle a perdu une décision serrée contre Magali Rodriguez. Perdu, fait un combat nul avec Melissa Squivel, la sœur de Jonathan Squivel de l'équipe nationale de l'équipe américaine. Vient de perdre un combat 6-4 contre une fille de 5-1. Okay? C'est un paquet de troubles. Elisabeth Chavez-Espinoza, et là, elle donne sa revanche à Léla Baudouin à maison. Wow! Ça, là, moi, je vais être scotché sur ma chaise. Ça, là, c'est du nanane, OK? T'as trois combats importants, trois combats qui pourraient être des finales partout dans le monde. Puis en plus, on te donne la revanche entre Baudouin et Espinoza. Tabarouette, Eye of the Tiger, prenez mon argent, puis achetez-vous ce que vous voulez. Comme diraient les Américains, take my money and run, si j'ai bien traduit l'expression. Après, en ordre, on a Christian Mbili qui affronte Rowan Murdoch, et ça, j'ai dit bravo encore. Murdoch a perdu sa seule défaite, c'est un combat d'aspirant numéro 1 contre Zach Parker pour la WBO. Depuis ce temps-là, il a surpris Isaac Arman à son dernier combat. C'est un tough. C'est un gars qui... Ben, par exemple, il est un peu zozo parce qu'il a dit qu'il voulait venir faire la guerre. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais c'est un bon boxeur. C'est un gars qui est classé 15e sur BoxRec. C'est un gars qui a flirté avec le rôle d'aspirant numéro 1 à WBO. Bravo! C'est, comme dirait Gilbert Delorme, c'est parfait. Je sais pas pourquoi je cite des gens du 91-9. À suivre. Donc, Rowan Murdoch contre Christian Mbili, j'applaudis. On a Jason Moloney, le frère de Andrew Moloney, qui va défendre son titre WBO contre Saul Sanchez. Parfait pour la télé américaine. Jason Moloney, il est très bon, il est même très très bon. Subit la défaite contre Emmanuel Rodriguez, la plus courte défaite que tu peux avoir, là. 315-113, deux d'un bord, deux de l'autre, un de l'autre. C'est fait knocker au 7e par Naoya Inoue. Depuis ce temps-là, il est redécollé. Il a battu Joshua Gray, Portillo, Palicté, Kai Kakan, qui était 56-1. Il a battu Vincent Astrolabio à son dernier combat. C'était quand même une petite surprise. Donc, on a la grosse élite à 118 livres. Assoyez-vous, regardez un combat de qualité. Et en grande finale, on a Arthur Beterbiev contre Callum Smith. Wow! Je répète, wow! Callum Smith, 29 victoires, une défaite, 21 victoires par KO. Surnommé Mondo, qui veut dire le monde. Si Callum Smith, là, il évoluait à 168 livres, OK? Puis j'ai tendance à dire que c'est pas un immense cogneur, malgré que toute la semaine, on va essayer de vous vendre sa grosse main gauche, OK? Mais embarquez pas dans les pièges, là. Lui, on va le connaître, il boxe en Angleterre, puis il affronte du monde tout croche, là. Jusqu'à temps d'être 8 ou 9-10-0. Il va battre Tobias Webb, OK? Dans un combat qu'on appelle « domestique », là. Ça, c'est mon ami Maxime Gabriel qui utilise ça, puis j'aime ça, un domestic fight. Il va coucher 4 fois Web. Il va battre... Ils vont augmenter un petit peu la compétition. Tu sais, il fait ses petites affaires. Il va battre Rafael Sosa Pintos, qu'on a déjà connu ici. Il va l'arrêter 3 fois au 3e round. Là, il va affronter son premier adversaire qui a du sens pour le titre WBC international, Nicolas Svekloka. Il va gagner 10 rondes sur 12. La vie est belle. Il va battre le Français Christophe Rebrassé. Et là, boum, il va knocker Rocky Fielding en partant. Trois fois en partant le premier round. Tu sais. Fait que là, ça va bien. Ça va bien. Hernan Reynoso, Norbert Nemesapati, qu'on a déjà connu ici. Lucas Blackledge, d'un combat local très attendu. Il va battre le Suédois Erik Skoglund, qu'on a toujours connu. Des fois, le monde disait qu'il allait affronter Adonis. On a tout entendu que Skoglund, nous autres. Skoglund, il va battre Skoglund, il va battre Olsken. Il bat des aspirants mondiaux en Skoglund puis Olsken. Puis là, il va faire la grosse patente. En Arabie Saoudite, il va arrêter George Grove. Là, après ça, il va battre Hassan Ndam. Ndam, je pense qu'il avait 104 ans. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Contre John Ryder, il va souffrir le martyr. Puis il y en a beaucoup qui vont dire qu'il a volé John Ryder. Contre John Ryder, on comprend qu'il y a de la misère avec la pression. Il y a de la misère avec l'agression. Lui, il file pas quand il se fait agresser. Puis Ryder, il nous montre vraiment comment le battre. Puis il y a beaucoup de gens qui critiquent la décision des juges. Après ça, il affronte Canelo. Il se fait amener à l'école, mais... Il se fait pas dominer, il se fait pas déclasser. Il se fait dominer, mais il se fait pas déclasser. Il mange pas une volée. Là. C'est... Canelo va lui faire mal au 9e. Mais, tu sais, il survit Canelo un peu. Mais, soyons honnêtes, on est loin d'une grande performance. Puis, il n'y a pas vraiment d'ajustement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il boxe une fois en 19, une fois en 20 contre Canelo, une fois en 21 contre... Gilbert Castillo-Rivera, ça va durer deux rondes. Puis là, il va sacrer une volée à Boderlic. Il s'est entraîné ici avec Stéphane Larouche en 2022. Mais il ne s'est pas battu depuis août 2020. Il n'a pas pris de combat entre-temps. T'sais? Puis Beterbiev, on nous dit souvent qu'il a peut-être vieilli. Là. Mais qu'est-ce qu'il n'aime pas, Callum Smith? La pression. Puis Callum Smith, il est très doué. À moyenne puis à longue distance. T'sais. Il lance son jab de belle façon. Il descend au corps avec son jab. Frappe fort de la main gauche avant. Mais je vois pas. T'sais, je vois Anson Wainwright qui dit Smith va arrêter Beterbiev au 7e. Je vois Eddie Hearn qui dit j'ai vu l'image de Callum Smith victorieux avec Beterbiev qui dort à terre. Puis là, on négocie bivol. Je trouve que c'est un peu exagéré, tout ça. Puis Beterbiev, il a 38 ans. Il n'a pas 154 ans. Puis Beterbiev, il a battu Vosdick. Puis, tu sais, Anthony Yardé, c'était pas un si mauvais client que ça. Puis, il a fait la guerre avec. Puis, il l'a arrêté violemment. Il a battu des bons boxeurs, Beterbiev. Tu sais, Marcus Brown. Il avait amené Badou Jack à la petite école, tu sais. Il l'a massacré, genre. Joe Smith avait fait la limite avec Bivol. Joe Smith, il en a battu du monde, Joe Smith. Là. Il a battu, man, si ma mémoire est bonne, il a battu Fonfara, Hopkins, puis Hilaire Dyer, Jesse Hart, Maxime Vlasov. Tu sais, je vois comme ça par mémoire. Puis il l'a massacré, tu sais, plus vite que Gilberto Ramirez. Là. Fait que je. Puis que Dimitri Bivol. Fait que je trouve qu'on a tendance peut-être à pas donner tout le crédit qui revient à Beterbiev. Tu sais, je regarde ça, là. Vosdick au 10e. Callum Johnson au 4e. Marcus Brown au 9e. Joe Smith au 2e. Yardé au 8e. Ça commence à faire du client, là. Tout arrêté par KO. Donc, ma prédiction. Après 5 rondes, ça va être 3-2 pour Callum qui va gérer, qui va s'éloigner, mais tranquillement, pas vite. Vous allez voir que Beterbiev, il place ses pieds, il commence à couper le ring, il tend des pièges. Et là, à partir du 6e, ça va être le mode rouleau compresseur en se disant, tu sais, on va s'assurer de perdre pas plus que 3-2, mettons, là. On va s'assurer de laisser Callum prendre un peu confiance. Puis là, maintenant, on va dire le pied sur l'accélérateur. Et là, à partir du 6e, ça va donner le bon vieux Beterbiev qu'on connaît. Il va chasser Callum. De toute façon, Callum, il est frappable. Il n'est pas très doué à mi-distance. Si vous ne me croyez pas, allez voir les combats contre John Ryder et Canelo, qui sont des gars de 5 pieds 8 qui affrontent un gars de 6 pieds 3 et demi. Je vous annonce, Beterbiev est plus grand que 5 pieds 8. Alors, ma prédiction, Arthur Beterbiev va gagner quelques secondes avant les rounds de championnat à la fin du 10e ronde. Et j'espère que Bivol sera sur place.
L'autre fois, j'étais en train de me promener aux galeries d'Anjou, puis je vois que le Père Noël est déjà arrivé. Fait que je sors une photo de Martine Vallière-Bisson de mes poches, puis je m'en vais m'asseoir sur le Père Noël. Puis là, j'y pointe la photo, puis j'y dis « C'est ça que je veux comme cadeau cette année. »
En direct d'un appartement de Rosemont à Montréal, c'est ton podcast préféré. Puis ce matin... J'écoutais un autre podcast, puis
j'ai pas écouté, mais j'ai vu dans l'intro que c'était marqué que Maxime Trauman, il venait de Rosemont, puis que c'était marqué que c'était le ghetto, puis là, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que faut être chanceux pour survivre dans Rosemont quand on est jeune. C'est pas évident. Le quartier ici, c'est dur. Donc, j'avais des nouvelles importantes à vous dire, OK? Scène internationale, ça vient de sortir. Ma grand-mère, moi, à 81 ans, non, à 71 à peu près, elle s'est fait opérer au cataracte. Mais là, tenez-vous bien, Errol Spence a annoncé qu'il s'est fait opérer pour les cataractes, OK? Puis que c'est pour ça qu'il avait perdu contre Terence Crawford. Puis que là, il voulait une revanche. Puis que là, j'en aurais plus d'exemple. Là, je vous l'avais pas dit, je me suis fait opérer pour les cataractes, mais là, je pensais que c'était à 75 ans, puis là, il l'avait pas dit, ça fait que il se fait opérer les cataractes, c'est ça qui aurait ruiné sa performance. Là, c'est là, non, il se fait... j'ai mal lu, j'ai honte, il vient de se faire opérer pour les cataractes, il voyait mal quand il a affronté Crawford, là, il voit bien, il est opéré, il n'y a plus d'excuses. J'ai jamais vu ça. Cataracte. Bon, Usyk swing pour arracher des têtes présentement à l'entraînement. On nous dit que Fury est caché, puis qu'il y en a qui pensent que le combat n'aura pas lieu. Toutefois, Alexis Barrière, lui, est à l'entraînement avec Fury. Je ne sais plus qui croire. Là. Est-ce que Usyk s'entraîne pour arracher des têtes? Ça va-tu passer? Va-tu l'avoir, ce combat-là? Je sais pas. Oscar De La Hoya, lui, milite pour un éventuel combat entre José Ramirez et Ryan Garcia. Il dit que il a signé Ramirez, puis là, les gens... Non. De La Hoya a signé Ramirez, puis ça fait penser... Les gens se sont imaginés qu'elle allait affronter Garcia. Il y a Virgil Ortiz Jr. qui a dévissé son adversaire, Frédéric Lawson, qu'on avait déjà vu contre Kevin Bizier. Bizier, lui, avait cassé la mâchoire. Et là, la question, c'est y aura-t-il un combat entre Virgil Ortiz Jr. et Tim Zhu? On le sait pas. Parce que là, Zou, lui, il a comme pas de combat. Escortez est rendu assez haut que tu veux peut-être le perdre contre Zou. Je sais pas, mais ça brasse. Je vous l'annonce. Beterbiev contre Callum Smith, il y aura des feux d'artifice. Ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur ma feuille. Soubriel Mathias a dit qu'il en avait sa claque d'attente. Il est prêt à affronter n'importe qui dans l'élite des 140. Il dit « Je suis le meilleur boxeur à ne pas avoir de ceinture. Venez m'affronter, s'il vous plaît. » Soubriel Mathias, qui lui, s'il frappe, ça n'a pas de... Ça n'a pas de Saint-Bon-Saint. Puis là, il a dit, je cite, Ryan Garcia, Devin Haney, Teofimo Lopez, Rolly Romero, c'est tout des PSUUY. C'est tout du monde qui ne veulent pas m'affronter. C'est des poules mouillées. Il est allé, je veux dire, il était choqué cette journée-là quand j'ai pris ses propos. Il était vraiment pas
de bonne humeur. Sinon, qu'est-ce que j'avais? J'avais pas grand-chose sur ma grande feuille. Non, mais je vais tourner la page quand même. Ryan Garcia contre Rulli Romero, on parle du 5 mai, où là, Canelo se battrait moins souvent, puis ce serait Garcia qui ramasserait la date de mai. Joseph Parker, qui vient de battre Deontay Wilder, lui, vise d'affronter Zay Lezang ou Philippe Ergovitch au mois de mars. On peut penser que Ergovitch peut-être pour le titre laissé vacant de la IBF, ou Zang simplement le fame de écouté par 173 millions de boxeurs chinois. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ismaël Barroso, qu'on avait vu battre Yves Ulysse, a débattu O'Hara Davis au premier round. Et là, il est devenu champion. Je ne sais pas si c'est régulier. Là, la WBA a tellement de ceintures que j'ose plus trop m'avancer. Là. Fait que ça fait que notre bon chum, Ismaël Barroso, lui, ben, il a 40 ans, OK? Il est gaucher, frappe comme un train, mais il a lancé des défis à tout ce qui bouge à 140 livres. C'est intéressant. Tu sais, le gars, il peut faire une dernière run à son âge. Ben, il a demandé pour affronter une revanche contre Rulli Romero. L'arbitre l'avait complètement volé. Puis on parle quand même d'un gars qui était négligé à 6 contre 1 contre non, il affrontait qui, là? O'Hara Davis. Hey, mon Dieu! Je suis mêlé comme un cheval d'un jeu de quilles. Scène internationale, qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour vous autres? O'Hara Davis, je l'ai. Devin Haney, lui, son père a fait se battre avec Bernard Hopkins. Après ça, il a dit... il a dit, arrêtez de me mentionner parce que sinon, je peux tous vous battre un arrière de l'autre. Qui était pas content. Il est en colère. Je sais pas ce qui se passe avec Devin Haney. Son père fait plus de... Son père fait plus de troubles que lui. C'est à peu près ce que j'avais sur mes feuilles mobiles ici. Et je voulais vous dire que j'étais, cette semaine, j'étais tranquille chez nous. Puis là, on m'a annoncé, via le truchement de X, l'ancien Twitter, que Anthony Joshua allait affronter Francis Ngannou. J'étais tellement fâché que j'ai fait un trou dans mon plafond. OK, je suis tanné. Je suis en colère. La job de Joshua, c'est de mettre la main sur des titres mondiaux. C'est d'affronter, profiter de sa notoriété pour affronter Ergovic à la IBF pour le combat régulier après que Usyk a abandonné la IBF. Ou d'affronter Joseph Parker pour devenir aspirant obligatoire WBC pour affronter le gagnant de Usyk contre Wilder. C'est pas d'affronter un gars qui a zéro victoire, une défaite. Je suis tanné, là. Je suis tellement tanné, là. Je pense que je vais arrêter le podcast. Ta job, c'est de mettre la main sur des titres, c'est de créer une dynastie, c'est de faire l'histoire. Pas d'affronter un gars de MMA pour faire de l'argent, là. La boxe va pas bien. Elle va très mal. Très, très mal. Sean Porter rêve de Andy Ruiz contre Daniel Dubois. Wow, c'est à peu près ça, là. Fin de la chronique internationale. Il y a une affaire que je voulais vous dire. Écoutez, je suis en train de pogner l'influenza, moi, j'ai le nez plein. Je voulais vous dire que je suis en colère, mais pas en colère, mais tu sais, Régent Tremblay, mon ami Régent, je réponds à ta chronique de ce matin au 91.9. T'arrêtais pas le mot couvert pour essayer de protéger ton bon ami Makhmoudov. Makhmoudov, il a perdu, il a super mal paru. Tant mieux s'il s'en remet, puis il commence à jabber, puis mieux boxer. Mais il a fait une performance de bouette. Arrête-moi, le Marc Ramsey s'occupait de Beterbiev. Il s'est fait mal à la main, mais il s'en est rendu compte après le combat, puis il disait que ça lui faisait pas mal dans le ring. Arrête avec le... de mettre Fury
Wilder puis Canelo dans la même phrase que Makhmoudov, tu sais, des gars qui ont perdu contre Bivol puis Mayweather, qui ont perdu contre Fury puis mettons Parker maintenant, versus un gars qui a perdu contre Agit Kabayel. Tu sais, je dis là c'est bien beau là aimer Makhmoudov puis se sentir proche là, mais calmos, ok. Makhmoudov a très mal paru, c'est un désastre. Tant mieux si l'avenir, il se passe un miracle, là, mais ça va vraiment mal pour le moment. On peut pas dire l'inverse, là. Puis les histoires de blessures. Mon grand-père, Jean-Paul Châtillon, avant de mourir, a déclaré, je cite, « Tous les boxeurs ayant subi la défaite étaient blessés à quelque part. » C'est un vieux truc. Les combats de la semaine prochaine avec ton animateur préféré, Laurent Poulin. Le boxeur préféré de Kenny Sherry remonte dans le ring vendredi, il n'y a pas d'adversaire. Julian William à Atlantic City. Je le dis simplement si Kenny veut se payer un voyage à Atlantic City. La même journée, et là vous allez tomber en bas de vos souliers, là. La même journée, le 13 janvier, Femke Herman, qui a ses deux victoires contre Marie Spencer, va affronter Esther Konecna. Trois victoires, 25 défaites de la République tchèque. Ce sera tout, Madame la juge. Je veux bien prendre la boxe féminine au sérieux, là, mais je dis 3-25. 3-25. Rendu là, fais une trilogie avec Mary Spencer. Ou bats-toi 17 fois avec. Pour les amateurs de boxe féminine, écoutez 120 secondes avec Marie-Ève Albert. Il y a aussi Fabiana Bitikwi qui va affronter Tina Ruprecht en Allemagne le 13 janvier. Pour ceux qui regardent vraiment tout ce qui bouge, parce que faites juste aller, pour vrai, là, faites juste aller à Québec. Puis à Québec, d'ailleurs, j'aimerais ça que le monde entier soit là. J'aimerais ça qu'on vende 14 000 billets. Fait que dirigez-vous à Québec, tout le monde. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on jasera là-bas. Moi, je vais être disponible. On a Joey Daweshko qui fait son retour aussi samedi, qu'on a bien connu au Québec, qui va se battre aux États-Unis. Et ce sera tout pour les combats de la semaine prochaine. J'aimerais tous vous voir à Québec. On s'en va au Broubouffe faire le party. Non, au Québec Brou, je pense. Je serai là, à Québec, accompagné de mon garde du corps, Siama Kramati. Donc, je vous attends tous en très grand nombre et je vous aime.
Va chier, Poulain. Tu niaises.
Ah, écoute, premièrement, j'ai pas aimé que Georges Larac, il commente le fait que la fondée Tyson Fury, il a publié de quoi. Va pas là, tu vas te faire tuer, Simon, blablabla. Premièrement, tu sais pas de quoi tu parles, pas en tout. Pour écrire ça, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Puis, c'est vraiment inapproprié qu'il écrit ça. Mais, tu sais, vraiment, quand je vois ça, Georges Larac, c'est un gars qui est un peu en manque d'attention, que sa carrière est finie. Un has-been, comme on dit, mais tu sais, c'est pas négatif d'être un has-been, je vais en être un, mais on va tout en être un jour, c'est pas grave. Si t'es un has-been, ouais, ça t'a fait quelque chose de concret dans ta vie.
Les gens qui veulent me traiter d'has-been, écoute, je suis très en ligne nationale, je suis content d'être un has-been parce que c'est mieux qu'un never-been.
Camille, Simon Keane, c'est pas gêné de traiter Georges Larac de has-been hier à TVA Sport. Le journal de Montréal en a rajouté parce que c'est pas tout à fait ça que Simon Keane a dit, mais il s'est rétracté par la suite. Il a fait référence à son possible combat promotionnel. Bien sûr que Georges pourrait disputer face à Mike Tyson. Toi, ça te tenterait pas d'organiser un petit combat Keane-Larac?
Pas du tout.